Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons fêté hier, au centre Saint-Paul, qui est évidemment viscéralement attaché à cette chapelle, ou plutôt l'inverse, entre deux boîtes à chaussures, vous voyez, il y a un lien commun. Eh bien, le centre Saint-Paul fêtait hier, célébrait hier sa fête patronale, la conversion de Saint-Paul, fête qui venait clore la traditionnelle semaine pour l'unité des chrétiens et le retour des chrétiens séparés à l'unité catholique, dont j'ai omis de vous parler en fait dimanche dernier, alors que je le souhaitais, mais ce n'est pas grave, on peut toujours prier pour l'unité des chrétiens. Et nous en avons profité donc, l'abbé de Tannoir, l'abbé Bio et moi-même hier, pour méditer un peu sur la figure gigantesque de l'apôtre des nations. Or, il se trouve qu'en lisant la messe de l'évangile de la messe d'aujourd'hui, j'y ai décelé de profondes harmonies avec la conversion de Saul de Tarse. Par sa fulgurante rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, Saul a été retourné comme une crêpe. C'est comme ça en tout cas qu'on nous le représente sur à peu près tous les tableaux, et je crois que les auteurs, autant que les écrivains sacrés, autant que les théologiens, et bien les artistes ont également parfois des impulsions du Saint-Esprit qui leur permettent de rendre compte de la vérité. Il se trouve que tous présentent saint Paul comme terrassé. Et sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui a été terrassé en saint Paul en réalité? On sait bien qu'il a perdu l'usage de ses yeux pendant un certain temps. C'est pas ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est que les bases sur lesquelles était assis son intégrisme religieux ont été littéralement balayées. Et nous tenons la preuve qu'il n'a pas rêvé lorsqu'il a senti ce balayement de ses principes religieux. Il n'a pas rêvé, il a été inspiré par un vrai esprit, mieux encore par celui qui est dépositaire de l'esprit, le Seigneur lui-même, parce que dans l'évangile d'aujourd'hui, nous trouvons dans les paroles de Jésus et dans les actes de Jésus une confirmation de ce balayage des principes que Saul tenait pour vrai et que saint Paul reconnaîtra pour faux. En fait, en un instant, Saul s'est aperçu que les deux clés qu'il tenait orgueilleusement par-devers lui ne lui ouvriraient jamais la porte du ciel et qu'il faudrait donc qu'il jette ses clés pour en changer. Quelles sont ces deux fausses clés? Quels sont ces deux principes sur lesquels tout l'édifice de Saul de Tarse était édifié et auquel il a dû renoncer pour devenir le deuxième plus grand apôtre? Il y a d'abord, je crois, le légalisme rituel comme condition de salut. Et puis, il y a ensuite la conviction que le salut était l'apanage des seuls juifs. Et c'est exactement ces deux principes-là, qui sont fallacieux, qui sont mis en cause par Jésus dans l'évangile relaté par saint Matthieu aujourd'hui. Le légalisme rituel. Quand Jésus rencontre le lépreux, il aurait très bien pu agir comme ces prêtres, lévites, rabbis de la parabole du bon samaritain et passer à côté sans prêter attention à ce pauvre homme dans le fossé. Or, que fait Jésus? Il ose le toucher. Saint Matthieu y insiste, donc j'y insiste aussi. Il étendit la main, nous dit-il, et il le toucha. Il étendit la main et il le toucha. Il aurait pu se contenter de dire l'un ou l'autre. Il veut cumuler les deux pour bien insister sur cela. Ce n'est pas un détail. C'est quelque chose qui est fondamental parce que Jésus aurait pu guérir cet homme-là par la simple puissance de son verbe, comme il le fait si souvent. Et l'instant d'après, avec le serviteur du centurion, Jésus ne touche pas le serviteur, c'est à distance que par sa parole, il guérit la personne. Or là, avec ce lépreux, il le touche. Et ce n'est pas anodin. C'est pour nous enseigner, c'est pour enseigner du moins au moins ceux qui étaient ses contemporains et qui assistèrent à la scène, et pour leur apprendre la caducité des interdictions légales qui proscrivent de toucher, vous le savez bien, un lépreux sous peine de devenir impur soi-même et ne pouvoir prendre part au culte et aux activités de la société israélite. C'est très exactement cela qu'a compris saint Paul sur le chemin de Damas. L'incapacité de la loi à sauver par elle-même. L'instant d'avant, c'est-à-dire l'instant d'avant d'être saisi par cette vision ou cette motion du Seigneur Jésus, il prétendait, comme il le relate dans l'Épître aux Philippiens, qu'il faut lire. L'Épître aux Philippiens est magnifique. Toutes les épîtres sont magnifiques. Toute l'Écriture est à lire, bien sûr. Mais l'Épître aux Philippiens contient notamment un récit par saint Paul de ce qu'il tenait pour vrai auparavant et du coup de balai qui s'est passé sur le chemin de Damas. C'est bouleversant. Et l'abbé Tannoyne faisait hier cette remarque, qui est tout à fait judicieuse, comme toujours, l'abbé de Tannoyne, c'est quand même mon chef, l'abbé de Tannoyne faisait remarquer que, sans aucun doute, les épîtres de saint Paul sont le premier écrit de toute l'Europe à la première personne du singulier, écrit à la première personne du singulier. Le deuxième écrit étant tout simplement les confessions de saint Augustin. C'est quand même assez frappant. Saint Paul écrit, il a quand même le culot de parler de soi, comme saint Augustin aura le culot de faire ses confessions publiques. Saint Paul a le culot de raconter ce qu'il vivait auparavant, d'où il vient, ce qu'il vit, mais bien loin de relater des borborygmes, évidemment, c'est pour notre instruction et notre sanctification qu'il fait cela. Donc l'épître aux Philippiens, vraiment je vous incite à la lire. Si vous n'aviez que 2 heures devant vous avant de mourir, eh bien jetez-vous sur l'hymne aux Philippiens et pénétrez-vous de cet esprit de Saint Paul, parce qu'il l'a vu très juste. Et que nous dit Saint Paul? Il nous dit, quant à la justice, il décrit ce qu'il était auparavant. Quant à la justice que peut donner la loi, j'étais irréprochable. Il faut le faire quand même. Ça veut dire qu'il appliquait parfaitement les 650 mitzvot, les 650 prescriptions rituelles juives. Il le dit, j'étais irréprochable. C'est un véritable intégriste. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que cet intégrisme-là, qui normalement doit mener à la vie, puisqu'il s'agit de prescriptions qui ont été données par Dieu, puisqu'il s'agit d'une loi qui est communiquée à son peuple par Moïse pour qu'ils aient la vie, et bien loin de procurer la vie, qu'à procurer cette observation scrupuleuse de intégrale de tous les préceptes juifs et les 10 commandements et les interprétations qu'en ont donné tous les commentateurs, les théologiens juifs, et bien loin de conduire à la justice, la loi la conduit à la mort. Puisqu'il le dit lui-même, il était un persécuteur de chrétiens, ne ressentant, dit-il ailleurs, que haine pour les adorateurs du nom, c'est-à-dire ceux qui vénéraient le Christ, qu'on n'appelait pas encore chrétien. Voyez donc où conduit la loi, c'est ce qu'a, et dans le cas de ce lépreux, et dans le cas particulier de saint Paul, à la mort. Parce qu'on préfère laisser dans le caniveau un lépreux, quitte à ce qu'il soit rongé jusqu'à ce que mort s'en suive par sa lèpre, ou parce que comme Saul, on considère qu'il faut, pour appliquer intégralement la loi, éliminer tout blasphémateur, éliminer toute personne qui est malcroyante. Vous voyez, et il est propre aux chrétiens de rappeler aux hommes, non seulement qu'on n'achète pas la vie éternelle par une simple application extérieure des préceptes rituels, ça c'est la grande nouveauté du christianisme. Ça nous paraît tout à fait acquis, parce que nous sommes assis sur 2000 ans de tradition chrétienne. Mais à l'époque, cela n'était absolument pas le cas. Le Christ vient révolutionner les choses, nous dire « la loi ne suffit pas », mais aussi que la loi conduit à la mort. Regardez à quoi a conduit l'application scrupuleuse de la Torah et à quoi elle conduit aujourd'hui. Regardez à quoi conduit l'application scrupuleuse de la charia. Voilà à quoi mène l'application scrupuleuse de la loi. Elle mène également, dans cette république laïque qui est une nouvelle divinité, cette application scrupuleuse contre laquelle nous allons manifester cet après-midi, j'espère en nombre, elle mène à la mort, non seulement à l'emprisonnement et peut-être un jour à la persécution, non plus larvée mais explicite des opposants, mais également à la mort des petits-enfants dans le sein de leur mère, à la mort des vieillards bientôt, ou de toute personne qu'on tiendra pour n'étant plus digne de vivre. Tout cela sous un masque de pseudo-dignité humaine, le droit à mourir dans la dignité. Voilà donc à quoi mène l'application scrupuleuse de la loi, elle mène à la mort. Alors on dira qu'il y a bien des chrétiens qui ont tué au nom de l'évangile, il faut reconnaître que cela est vrai. Du moins, prétendait-il s'autoriser de l'évangile, en réalité, comme il faut le reconnaître, le magistère a toujours condamné qu'on inflige la mort à cause de l'évangile ou en se réclamant de l'évangile. Et il n'est pas jusqu'au droit canonique, qui est tout de même peut-être un des éléments les plus juridiques dans la tradition de l'Église, il n'est pas jusqu'à ce code de droit canonique qui prescrit dans son ultime canon, et ça n'est pas anodin, dans son dernier canon, que nous dit le code, la loi suprême est le salut des âmes. C'est-à-dire, souviens-toi, toi qui es juge ecclésiastique, souviens-toi, toi qui es avocat, souviens-toi, toi qui as parfois sanctionné, que ce qui prime par-dessus toute prescription juridique, c'est le salut des âmes, c'est-à-dire la vie. Eh bien, nulle part ailleurs, je n'ai trouvé semblable prescription dans un code juridique quelconque. fût-il la Torah, la charia ou nos codes civils, je ne vois cela que dans le sein de notre mère Église. Si nous-mêmes, nous n'en sommes pas à tuer physiquement, du moins je l'espère, les mauvais observants de la loi, ou ceux qui seraient les contempteurs de la loi nouvelle du Nouveau Testament, nous n'en sommes pas pour autant tout blanchis. Il ne faudrait pas, à peu de frais, se prendre pour quitte de ce rappel du Christ et de cette conversion du cœur de saint Paul. N'y a-t-il pas parfois où un petit pharisien qui gît au fond de nous, celui qui laisse passer le bœuf et qui filtre le moucheron, comme le dit le Seigneur Jésus, qui se tient quitte parce qu'il va à la messe le dimanche? Je vous le redis très souvent, mais je pense que c'est quelque chose qui doit pénétrer en vous, et je me le redis tout aussi souvent. On va à la messe tous les dimanches, on fait ses Pâques, on se confesse de temps à autre, on paye un petit sou par là, par-ci, à la quête, et on se tient pour quitte. Parce que ça, c'est pas du pharisaïsme, mais par ailleurs, on se laisse aller à toutes sortes d'excès. Voilà, peu importe, je suis dans les clous au plan des commandements de l'Église, tu parles. N'y a-t-il pas également en nous, parfois pire, un petit taliban qui sommeille, non plus seulement un petit pharisien, mais un petit taliban qui, au nom de la loi morale, ostracise ou tue moralement, ou qui montre du doigt celui qui n'est pas dans les clous? Alors là, je vous rappelle les règles très claires fixées par saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui. La justice ne nous appartient pas. C'est-à-dire que nous n'avons pas à juger. Nous pouvons évidemment évaluer objectivement la conduite d'un tel ou un tel, intérieurement. Nous pouvons parfois faire ce qu'on appelle la correction fraternelle, autant que l'autorise la fonction que nous avons dans l'Église, qui nous a été impartie par le Seigneur lui-même, et c'est tout. Quant à la justice, quant à sonder les reins et les cœurs, c'est là le privilège de Dieu, confère l'épître d'aujourd'hui, que je vous invite à lire également. N'y a-t-il pas parfois même une sorte de réflexe taliban lorsque, là je touche un sujet sensible, lorsque des lois liturgiques ou des rubriques ont été malmenées, et nous prenons donc notre ton de redresseur de tort? Bien sûr qu'il ne nous faut pas accepter n'importe quelle couleuvre à gaver, à recevoir dans notre bec par n'importe quelle personne qui célèbre n'importe comment et qui dit l'inverse de ce qui est prescrit par, là encore, notre Sainte Mère l'Église. Mais nous ne devons pas nous focaliser dessus. Nous n'avons pas à rendre justice. L'autorité est là, qui le fait au nom de Jésus-Christ. Alors faites-vous ordonner diacre, prêtre ou consacré évêque. Vous voyez, il faut laisser à Dieu le privilège de la justice. Il ne s'agit pas, évidemment, de verser dans le mépris, ce que je vous dis là, ne revient pas à verser dans le mépris de la loi, des prescriptions, pas du tout, pour devenir une sorte d'anarchiste dans une apesanteur un peu malsaine. Là encore, je cite quelque chose à laquelle faisait allusion l'abbé de Tannoire hier, qui est tout à fait révélatrice du caractère de saint Paul. Il avait compris que la loi était mortifère et il vitupère contre la loi, et en même temps il est un observant strict des règles juridiques, des règles liturgiques notamment. Un petit détail, on a retrouvé en 2006 un sarcophage sous le maître-autel de la basilique de saint Paul hors les murs. Sans aucun doute s'agit-il de saint Paul, puisque un graffiti sur le sarcophage identifie le nom de saint Paul apôtre. Néanmoins, Benoît XVI n'a pas souhaité qu'on ouvre le sarcophage, sans doute par respect pour les restes de saint Paul et pour ne pas détériorer ce qui plus tard peut-être pourra être mieux conservé. Mais on s'est permis de regarder à travers, grâce aux moyens modernes scientifiques, et de voir, on a essayé de se représenter saint Paul de l'intérieur. C'est quand même quelque chose de magnifique de voir saint Paul, après l'avoir entendu à peu près tous les dimanches, de le voir enfin. Or, de quoi s'est-on aperçu? Qu'il était vêtu très richement. Alors, quand on voit le mode de vie des apôtres, qui est le côté ascétique de saint Paul, il parle de la vie spirituelle comme d'un combat, il ne s'agissait certainement pas d'une fablette, et nulle part on ne nous dit qu'ils étaient dans de riches demeures, habillés comme des marchands d'Orient. Non, sans aucun doute est-il vêtu en fait dans ce sarcophage de ces ornements sacerdotaux ou de ces ornements pontificaux qui, encore une fois, sont très riches selon la petite analyse qu'on a pu en faire. Vous voyez donc que saint Paul n'est absolument pas, comme parfois on le raconte, vêtu d'ornements ridicules au profit d'une interprétation de la loi très laxiste. Pas du tout. Et pour autant, saint Paul pourfend ceux qui veulent appliquer la loi pour en tirer la justification. Deuxième point, deuxième clé que saint Paul doit abandonner parce qu'elle n'ouvre pas la porte du ciel, et deuxième point sur lequel saint Paul est retourné, et l'évangile acquiesce dans ce sens par la bouche et le comportement du Seigneur Jésus, c'est la conviction que le salut est le privilège des seuls juifs. C'était le deuxième pilier de l'idéologie de Saul. Après sa conversion, il rappelle, d'ailleurs, non sans une pointe de fierté, toujours dans l'épître aux Philippiens que je vous indiquais tout à l'heure, Philippiens 3, la description de ce qui faisait de ce qui l'animait autrefois, non sans une pointe de fierté, il dit qu'il était persuadé, grâce au prestige de ses antécédents, grâce à son pédigré, qu'il aurait comme un droit au salut. Il le dit lui-même, il dit « Je suis de la race d'Israël, c'est-à-dire héritier des promesses divines faites à Abraham, jadis. » Il dit qu'il était de la tribu de Jude, de Benjamin. Qui est de la tribu de Benjamin? Qui est, à part Saul de Tarse, le plus fameux des descendants de Benjamin? Et le premier roi d'Israël, Saül, qui porte le même nom que lui, du reste, sans aucun doute, est-ce pour cela qu'il s'appelle Saül? Par fierté, par fidélité à ce premier roi d'Israël. Ben, c'est glorieux s'il en est, bien sûr. Et encore, ajoute-t-il, de la caste des pharisiens. Les pharisiens, vous le savez, ça vient de Perouzim, qui veut dire pur, les purs. Autrement dit, il était un pur d'entre les purs. Grâce à ce système de poupées russes par lequel il se décrit, il montre qu'il est du cœur d'Israël. Bref, c'est sûr, il ira au ciel. Vous voyez, cette confiance en la chair, comme dit saint Paul, confiance en ses antécédents familiaux, qui le poussait à mépriser non seulement toute personne qui n'était pas israélite, non seulement toute personne qui n'était pas de la tribu de Benjamin, mais toute personne qui n'était pas de la caste des pharisiens, voilà que tout cela est balayé d'un coup. Tout cela vole en éclats lorsque Jésus, sur le chemin de Damas, se présente à lui. Et que lui dit-il ? Saul, pourquoi me persécutes-tu ? On ne sache pas que Saul ait jamais porté la main sur le Seigneur de son vivant. Si Jésus dit « Pourquoi me persécutes-tu ? » c'est pour lui faire comprendre qu'en persécutant les premiers chrétiens, il persécute celui qui en est la tête, le Seigneur Jésus. Autrement dit, Saul comprend dans un éclair que la seule chose qui compte pour être uni à Dieu, c'est d'être chrétien. Que ce ne sont pas les liens du sang, de la chair, ce n'est pas l'héritage des antécédents juifs, si glorieux soient-ils, qui obtiennent le salut et qui assimilent à Dieu, qui rend fils de Dieu. Ce qui rend fils de Dieu, c'est l'adhésion par la foi à Jésus-Christ. Vous voyez, le deuxième verrou, si j'ose dire, chez saint Paul, qui saute, c'est la foi seulement qui agrège à Dieu et qui sauve. Il n'est pas anodin que, suite à cette vision du Christ, qui lui dit « Saul, pourquoi me persécutes-tu » montrant que seuls les chrétiens sont unis par la foi à Jésus-Christ et donc à Dieu, il n'est pas anodin que saint Paul soit le premier à élaborer une théologie du corps du Christ, du corps mystique, comme on l'a appelé par la suite, où il comprend que ce corps est élargi à tous. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Aucun déterminisme, aucun passé, aucun atavisme. Ni en bien ni en mal, tout est uniquement fonction de foi en Jésus-Christ. Voyez. Cette découverte l'a tellement subjugué d'ailleurs qu'il devient, ironie de l'histoire, il faut quand même que le bon Dieu ait un peu d'humour, pour en faire le héros des nations, ou l'apôtre des gentils, c'est-à-dire l'apôtre des païens, de ceux qu'il méprisait par-dessus tout. Et c'est exactement cette vérité, c'est-à-dire ce qui nous sauve, c'est la foi et non pas un quelconque héritage, qui éclate dans la rencontre de Jésus avec le centurion romain, bien sûr. Deuxième partie de l'évangile d'aujourd'hui. Ce païen, nous dit Jésus, a déjà la foi. Il est encore païen, il n'a pas été régénéré par les eaux du baptême, ce qu'il fera par la suite sans doute. Il a déjà la foi. Le Seigneur le dit, ce n'est pas moi. Jamais en Israël je n'ai vu une telle foi. Même énorme. Ce païen a déjà la foi. Et la fameuse exclamation du centurion, d'ailleurs, que nous reprenons à chaque messe, « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole et je serai guéri. » Pourquoi est-ce que... Regardez à quoi elle répond, cette parole que nous reprenons, que nous faisons nôtre, sur le banc de communion. Elle répond à cette exclamation du prêtre, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Qui a prononcé cette parole ? Saint Jean-Baptiste. Devant qui l'a-t-il prononcé ? Devant les tout premiers disciples. Évangile de saint Jean, chapitre 1er, les tout premiers disciples, Jean et André, étaient des disciples de saint Jean-Baptiste. Et c'est sur la parole, le témoignage de saint Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, qu'ils sont allés rejoindre le Seigneur Jésus. Autrement dit, l'Église veut nous faire comprendre que nous sommes comme des centurions et que, tout comme le centurion de l'Évangile, en réalité, nous sommes faits disciples. Et ce centurion a été fait disciple, il a répondu, comme par-delà le temps, 3 ans plus tard peut-être, à l'invitation de saint Jean-Baptiste. Il est aussi digne que les premiers disciples, que ceux qui ont rejoint chronologiquement le Seigneur antérieurement. Vous voyez comme tout cela est riche d'enseignements. Eh bien, on voit ici un témoignage que l'Esprit-Saint souffle où il veut. Comme dit l'Écriture, c'est une des grandes vérités chrétiennes que Dieu touche qui il veut, quand il veut, s'il veut. Grand problème de la prédestination, je ne vais pas faire une troisième partie à cette homélie, je pense que là on serait en retard pour la manifestation. Donc voilà cette grande vérité chrétienne qui travaille de Dieu, qui travaille le cœur et l'intelligence sur un mode très discret. Le Dieu n'était pas dans le tonnerre, Dieu n'était pas dans la foudre, dans la tempête violente, Dieu était dans la brise légère. Voilà que Dieu souffle, et il souffle où il veut. Et qui nous dit que dans la manifestation tout à l'heure, des quarts entiers de CRS, harnachés pour la guerre, comme des centurions romains, ne vont pas percevoir quelque chose de ce souffle divin. Voyez, donc il ne faut pas, et donc, là encore, notre responsabilité est de ne pas étouffer, de ne pas stigmatiser quelqu'un parce qu'il n'est pas dans l'Église, de ne pas non plus empêcher, comme dit saint Paul, de ne pas étouffer l'Esprit. Encore une parole de l'apôtre aux gentils. N'étouffez pas l'Esprit Saint. C'est-à-dire, chez votre prochain, ne jugez pas, ouvrez les portes, accueillez-le, donnez-lui envie d'être chrétien en vivant conformément à ce que vous prêchez, et ce qui en lui est du Christ va s'attiser, va devenir incandescent jusqu'à peut-être lui faire franchir la porte de l'Église et surtout la porte du baptistère. Vous voyez, je peux en témoigner, nombreux sont les catéchumènes qui ont peur. Des catéchumènes qui n'osent pas aller plus loin et qui en fait ne vont pas au bout de leur démarche. Parce que, alors il ne faudrait pas hâter leur démarche, il ne faudrait pas les pousser de force dans le baptistère. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Nous semons, ou plutôt l'Esprit-Saint sème par nous, advienne que pourra. Vous voyez, c'est vraiment la démarche, je crois, qu'apprend à adopter saint Paul. Il était encore plus loin de nous que nous, de la vérité. Il était encore plus furieux dans sa démarche intégriste. Et Dieu a pu le retourner comme une crêpe. Alors, qui peut le plus, peut le moins. Mais bien sûr, il faudrait qu'on ait la même docilité que celle de saint Paul. Cette docilité, c'est celle d'un homme qui est tombé littéralement amoureux du Christ. Et je crois que si saint Paul avait entendu un prédicateur quelconque, il n'aurait pas changé de posture. Ce qui l'a désarçonné totalement, c'est évidemment d'avoir rencontré la personne même de Jésus-Christ. Alors allons puiser aux sources et rencontrons souvent Jésus-Christ pour vivre enfin de ces deux vérités libératrices du christianisme que je viens de vous rappeler.